Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Baben Pongo Massimango.
Conférence de presse du chef de l'État hier à Kinshasa, Félix Tshisekedi a abordé plusieurs sujets d'actualité. Pour lui, c'est le peuple qui décide au final du changement ou de la révision de la Constitution, tout comme d'un troisième mandat que lui personnellement n'envisage pas. Tshisekedi juge par ailleurs justifier les sanctions américaines contre son prédécesseur. Détournement présumé de plusieurs millions de dollars au fonds Frivao, le ministre de la Justice était face au sénateur mardi pour une question d'actualité. Guillaume Guéfa parle de fraude à grande échelle. Il a à cette occasion présenté son plan de redressement de cette structure. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont débattu des conditions socio-économiques du travailleur congolais. C'est en marge de la journée internationale du travail célébrée le 1er mai. Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité de ce jeudi reste dominée par le face-à-face Félix Tshisekedi et la presse hier, mercredi à Kinshasa. Le président de la République affirme qu'il ne faut pas lier la révision ou le changement de la Constitution à un quelconque troisième mandat. Félix Tshisekedi l'a dit devant la presse nationale et internationale. La première ministre, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement ainsi que plusieurs personnalités de l'Union sacrée et les communicateurs de la majorité, il estime que pour lui, le changement ou la révision de la Constitution ne peut se faire qu'après avoir consulté le peuple congolais par référendum. On écoute Félix Tshisekedi au micro d'Alain Irung.
Je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes deux mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix, mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum.
Et concernant les sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila, le chef de l'État dit regretter cette situation qui, selon lui, est un véritable gâchis. Félix Tshisekedi affirme que les sanctions américaines sont justifiées vu l'attitude affichée par son prédécesseur en soutenant notamment la question de la RDC par le Rwanda. On écoute Félix Tshisekedi encore une fois au micro d'Alain Irung.
Je suis le premier à regretter cette situation qui, pour moi, est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. C'était historique et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Je suis le premier à le regretter, je n'ai aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient sûrement parce que les Américains ont constaté ce que moi j'avais constaté depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les Américains pour des enfants de cœur. Ces gens, ils savent peut-être même mieux que nous ce qui se passe dans notre pays. Donc, ils le savaient. Et comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à la manœuvre pour amener la paix parce qu'ils ont besoin d'investissement, de créer des chaînes d'approvisionnement avec la République démocratique du Congo. Ils voient en tout individu qui entraverait cette démarche comme un empêcheur de tourner en rond, comme un ennemi à la fois de la République démocratique du Congo, mais aussi de leurs intérêts. Et donc, quoi de plus normal que d'en arriver là? Mais bon, je ne suis pas américain, j'étais pas dans leur secret au moment des faits, mais ça ne m'étonne pas, ces sanctions ne m'étonnent pas.
Notez que le président de la République s'est aussi exprimé sur plusieurs autres questions d'actualité. Concernant la question des migrants, par exemple, Félix Tshisekedi a expliqué que c'est un service que la République démocratique du Congo rend aux Américains. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, appelle à la cohabitation pacifique entre les chrétiens et les autorités politico-administratives congolais. Objectif, promouvoir le bien-être de tous. Le prélat catholique s'est exprimé hier mercredi à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée épiscopale provinciale, édition 2026 à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombé. Des évêques catholiques de la province ecclésiastique de Kinshasa prennent part à ces assises. Occasion pour le cardinal Fridolin Ambongo d'insister sur la nécessité du retour total de la paix dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo en proie à une guerre qu'il qualifie d'injuste. Il a aussi évoqué la situation dans le territoire de Kwamout, théâtre de violence attribuée à la ministre Mobondo, où selon lui, la paix commence progressivement à s'installer. Le cardinal Fridolin Ambongo a accordé une interview à la presse locale. On l'écoute.
Nous sommes très conscients de ce qui se passe dans la province de Maïndombé. Naturellement, notre pays souffre de problèmes de sécurité, d'insécurité, de pauvreté, de misère pour notre peuple, surtout à l'Est. Il y a un conflit qui est toujours en cours, c'est le conflit Mobondo, particulièrement dans le territoire de Kwamout. Et comme vous le savez, sur le plan ecclésiastique, Kwamout appartient à l'archidiocèse de Kinshasa. En d'autres termes, ce qui se passe à Kwamout se passe dans mon diocèse. Et tout ce que je peux dire, nous devons travailler pour consolider le vivre ensemble entre nous, pour la paix. Et la paix, ce n'est pas une donnée qui tombe comme ça du ciel. Nous devons nous investir. Nous aurons la paix si nous voulons la paix. Et l'invitation que je lancerai dès mon arrivée ici à Inongo, c'est toucher les cœurs de chacun, de chacune, pour voir comment nous pouvons conjuguer nos efforts, que ce soit le pouvoir politique, administratif ou le pouvoir ecclésiastique, comment nous pouvons travailler main dans la main pour que notre peuple puisse enfin vivre en paix.
Le ministre de la Justice était face au sénateur mardi à Kinshasa et pour cause, la question du fonds d'indemnisation des victimes de l'agression ougandaise, Rivao s'est invité au Sénat lors de la plénière. Interpellé à travers une question d'actualité du sénateur Muyamo Boyaï, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Kifa, a évoqué de graves dysfonctionnements, voire une fraude à grande échelle. Il a notamment révélé que sur les 195 millions de dollars disponibles, seuls 28 millions auraient effectivement été versés aux victimes. Le point avec Gassam Zati.
Selon Guillaume Ngefa, outre cet écart entre les fonds disponibles et les montants effectivement versés, le nombre des bénéficiaires est passé de 3 000 à plus de 14 000. Le ministre déplore que le Frivao, censé être un instrument de réparation, soit devenu le théâtre des dysfonctionnements systémiques et des détournements des fonds publics. Face à cette situation, il a présenté un plan de redressement en trois axes. L'assainissement financier et organisationnel, un audit indépendant du fichier des bénéficiaires, ainsi que l'adoption de procédures transparentes. Des mesures ont déjà été engagées, notamment la suspension du président du conseil d'administration et la réorganisation des organes de gestion. Selon le ministre, la reprise des indemnisations se fera en deux phases, d'abord collective, puis individuelle après assainissement du fichier. Le gouvernement prévoit également de mobiliser des ressources complémentaires, notamment issues du secteur minier, en attendant le paiement intégral des réparations dues par l'Ouganda. Objectif affiché, faire du Frivao un instrument crédible de justice réparatrice fondé sur la transparence et la redevabilité.
Le Fonds monétaire international appelle le gouvernement congolais à maintenir une discipline budgétaire rigoureuse pour contenir l'inflation et protéger le pouvoir d'achat des ménages. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le FMI au terme de sa mission à Kinshasa cette semaine. Si l'institution de Bretton Woods salue la résilience de l'économie congolaise dans un contexte mondial incertain, elle insiste néanmoins sur la nécessité de renforcer la gouvernance et de stabiliser le cadre macroéconomique. Dédité avec Michel Kifindangoy.
Au terme de cette mission de revue, les experts du FMI notent que la croissance économique de la RDC reste soutenue, portée principalement par le dynamisme du secteur minier. Dans son communiqué publié ce mercredi, le FMI souligne toutefois des défis persistants. Il appelle le gouvernement congolais à maintenir une discipline budgétaire rigoureuse pour contenir l'inflation et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Quant aux réformes structurelles, le FMI insiste sur l'urgence d'améliorer le climat des affaires et de renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Objectif, transformer la croissance minière en un développement inclusif qui profite à l'ensemble de la population. Cette étape franchie ouvre la voie à la présentation du dossier de la RDC au conseil d'administration du FMI. Une validation qui permettrait le déblocage de nouveaux appuis financiers pour soutenir les réformes du pays.
Nous revenons sur cette colère de certains automobilistes qui se disent traumatisés par les contrôleurs de véhicules ici à Kinshasa. Une conductrice déclare être contrôlée sans problème, non loin de son habitation, mais une fois en ville, d'autres agents l'arrêtent et lui font comprendre qu'elle n'est pas en ordre puisque la validité de ses documents a expiré après 6 mois. Et pourtant, explique-t-elle, des véhicules en très mauvais état, comme les bus communément appelés 207, roulent sur les routes de Kinshasa sans inquiétude. Elle est jointe par Lievin Bouinga.
C'est quand même anormal parce que on voit comment les véhicules, les 207 et tous les autres véhicules, même il y a des véhicules, des bus, esprit de vie, qui ne sont même plus en état de rouler, mais qui continuent de rouler. Est-ce que si vraiment le contrôle technique était réellement effectué, ces véhicules-là ne rouleraient pas? On voit des taxibus chargés de marchandises qui roulent sur le boulevard ou bien même dans nos quartiers ou à Lupen, je ne sais pas trop où. Et vous voyez qu'un véhicule est dans un état tellement déplorable. On se demande quand est-ce que a pu passer le contrôle technique. C'est quand même anormal. Les autorités, elles sont là. Elles roulent, elles aussi, c'est vrai, ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences que nous, le petit peuple. Eux, peut-être qu'ils n'en ont peut-être pas besoin, mais qu'ils soient quand même assez justes, qu'ils soient corrects, parce que c'est pas normal que les choses se passent de cette manière-là. Un véhicule qui roule normalement, on nous exige de faire des contrôles techniques, et les autres, on se demande où est-ce qu'ils trouvent les contrôles techniques, les documents attestant qu'ils sont passés par les contrôles techniques. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Et puis, un contrôle technique qui n'a une validité que de 6 mois. Si on refaisait les routes, si les routes étaient dans un très bon état, ça changerait peut-être la manière de voir les choses. Mais nous roulons sur quelle route? L'état des routes. C'est vraiment incroyable. Les routes ne sont pas arrangées. Les véhicules sont en train d'être abîmés. Et vous nous exigez tous les 6 mois maintenant de faire un contrôle technique. Non, mais franchement, c'est quand même trop là.
Radio Capi a cherché à joindre les responsables de la ville qui ont en charge les transports pour comprendre cette validité de documents. Mais en vain, tout était injoignable. Journée internationale de la sage-femme célébrée mardi 5 mai avec un bilan pas du tout élogieux au Kasaï central. Sur environ 300 sages-femmes que compte la province, seules une soixantaine sont affectées et très peu touchent en salaire. Conséquence, les accouchements sont assurés par un personnel non qualifié avec tous les risques. C'est le président de l'association congolaise de la pratique des sages-femmes qui révèle toutes ces difficultés rencontrées par ces professionnels dans l'exercice de leur métier. Laurent Galamouloumé s'est confié au micro d'André Katendengala.
La province du Kasaï central compte au total 333 sages-femmes. Il y a ne fût-ce que 67 sages-femmes qui travaillent et les autres sages-femmes sont en chômage. Il y a des maternités dans presque 26 zones de santé, mais les sages-femmes ne sont pas affectées. En termes de pourcentage, sur les 67 qui sont affectées, il y a à peu près 30 qui sont parfois matriculées et payées. Mais les autres sont matriculés et ne sont pas payés. Les autres ne touchent même pas la prime des risques. Mais comment on peut parler de maternité gratuite sans les sages-femmes?
Comment vous dites ça alors que dans chaque centre de santé, dans chaque hôpital, on retrouve des sages-femmes?
Non, ceux qui sont là-bas ne sont pas des sages-femmes. Quand on dit une sage-femme, c'est quelqu'un qui a fait la profession de sage-femme. Par exemple, vous avez des infirmiers qui travaillent là-bas. Il y en a même d'autres maternités au village. Vous avez des matrones qui chapeautent les maternités. Et d'autres difficultés dans d'autres maternités, vous avez les sages-femmes qui travaillent. Mais la sage-femme n'est pas affectée à la maternité. Nous plaidons pour que la sage-femme soit remise dans ses droits.
Et pour clôturer notre série consacrée aux élections, la Fédération congolaise de football association FICOFA, nous abordons aujourd'hui le rôle du président de la fédération une fois élu. Sachez déjà que les responsabilités du président de la FICOFA sont définies par l'article 41 des statuts de la fédération, ainsi que par les règlements généraux sportifs. Le président est le principal responsable du football en République démocratique du Congo. Il fixe les grandes orientations, représente le pays et veille au bon fonctionnement de toutes les activités liées au football. D'autres attributions du président de la FICOFA avec vous, Vanessa Kongolo.
Le président élu devra s'assurer que les objectifs statutaires, la mission, la stratégie et les valeurs de la FICOFA sont poursuivis de manière durable. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions de l'Assemblée générale et du comité exécutif par le secrétariat général, du bon fonctionnement des organes et de la fédération, ainsi que de la supervision des travaux du secrétariat général. Il constitue également les liens entre la FECOFA et ses membres, la FIFA, la CAF, les autorités politiques et les autres partenaires. Le président est le seul habilité à proposer la nomination du secrétaire général. Il peut également suggérer au comité sa révocation. Il préside les séances du comité exécutif et des commissions dont il est membre. Il dispose d'une voix ordinaire au sein du comité. En cas d'absence ou d'empêchement, ses pouvoirs sont exercés par l'un des vice-présidents selon l'ordre de préséance. Si le poste devient vacant, la fonction est assurée par intérim par les vice-présidents suivant cet ordre. Les présidents de la FECOFA supervisent l'ensemble du football en RDC. Organisation de compétitions nationales, respect des règlements, développement du football de jeunes, féminin, infrastructure, gestion des équipes nationales, ressources financières et partenariats. Il veille également au respect des statuts et de la résolution des conflits.
Actualité internationale.
La Cour d'appel de Paris a annulé hier le non-lieu accordé l'année dernière à la veuve de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana, autorisant la poursuite de l'instruction. Agathe Habyarimana fait l'objet d'une enquête pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité en France depuis 2008 suite à une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Âgée de 83 ans, elle est placée depuis 2016 sous le statut de témoin assisté et n'a jamais été mise en examen.
L'invité.
La Journée internationale du travail a été célébrée le 1er mai. À cette occasion, le ministre de l'Emploi et Travail a insisté sur la nécessité d'un environnement de travail respectueux des droits des travailleurs, tout en garantissant la sécurité juridique des employeurs, condition essentielle à la paix sociale et au développement économique. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont débattu des conditions socio-économiques du travailleur congolais. On les écoute au micro de Guy Maté.
Docteur Jean-Simon Futikiaku, vous êtes député national élu de Kimvula au Congo central, vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes également vice-président de la commission socioculturelle à l'Assemblée nationale et ancien directeur général de la CNSS. Que pensez-vous des conditions socio-économiques des travailleurs congolais?
En ce qui concerne le travail congolais, nous devons faire la part des choses entre les différents secteurs d'activité. Il y en a qui sont dans les secteurs privés et il y en a qui sont dans les secteurs publics. Chacun des travailleurs, là où il est, il doit se retrouver dans un environnement sain. Un environnement qui lui permette de se sentir à l'aise au travail. Parce que vous devez le savoir, monsieur Guy Maté, avoir du travail, c'est un privilège. Et le travail, quand vous l'avez, vous devez l'exercer avec joie. Donc, vous devez vous sentir épanoui. Et l'épanouissement de chacun des travailleurs, parce que c'est là où il passe le plus de temps possible, lui permettra à ce que qu'il puisse se sentir à l'aise, comme je disais, et qu'il n'ait aucun problème en ce qui concerne sa santé. Parce qu'il ne va pas au travail pour qu'il soit atteint de certaines maladies liées au travail. Mais je voudrais vraiment rassurer les gens qu'il y a des avancées. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup à faire. Et dans ces beaucoup à faire, que les Congolais prennent encore leur mal en patience parce que nous allons y aboutir.
Merci Guy Koukou, vous êtes président de la Confédération démocratique du travail CDT en sigle et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. On évoque toutes ces réformes, n'est-ce pas, qui sont initiées par le ministère de l'Emploi et Travail, notamment les renforcements des contrôles dans les entreprises pour assurer l'application stricte du code du travail, le respect effectif du SMIG et la formalisation des relations professionnelles à travers la généralisation des contrats de travail. Des réformes, n'est-ce pas, qui sont importantes mais qui ne produisent pas encore d'effets sur le terrain. À votre avis, quels seraient les présenteurs qui font qu'en dépit de ces réformes, les conditions des travailleurs congolais sont loin de s'améliorer?
Chaque réforme s'accompagne par des mesures d'application. C'est ce que j'ai dit ici. Nous chantons les mêmes chansons, on arrive à la même conclusion. On a chanté, on n'a rien fait. On a dit, on n'a rien accompli. C'est parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelles sont les causes? Les causes, c'est que on a engagé des réformes pendant les contrôles dans les entreprises. Qui va d'abord aller contrôler? Ce sont les inspecteurs. Est-ce qu'ils sont bien outillés pour aller contrôler? Avant de commencer de parler de contrôle des inspecteurs, il faut commencer par améliorer la qualité des inspecteurs, améliorer leur environnement du travail, leur donner les moyens pour les inspecteurs qui ne sont même pas respectés, ni écoutés. Il va dans une entreprise, on ne les reçoit même pas. Il est désarmé. Il ne peut prendre aucune mesure. Quand il décide, c'est un autre supérieur qui entre, c'est un autre qui appelle les ministres, qui appelle tel général, qui appelle. C'est, les contrôles aura lieu où? Si on fonctionne de la même façon, quelle est la réforme? La réforme aurait été qu'on dit, d'abord, on a autant d'inspecteurs. Par exemple, la ville de Kinshasa a combien d'inspecteurs et a besoin de combien d'inspecteurs? Et puis, on les affecte. On dit, maintenant, il faut qu'ils fassent les contrôles. Il doit faire quoi? Il doit avoir quoi à main? Il doit aller là-bas comment? Il doit. On leur donne les outils du travail. Mais aller à l'inspection du travail, il y a même des inspecteurs qui n'ont même pas de bureau. Ils n'ont même pas où faire un rapport.
Merci Polydor Tangeli, vous êtes expert en matière de travail. Vous avez insisté sur la remise en valeur des travailleurs. À votre avis, cette remise en valeur devrait se traduire par quoi?
Je crois qu'il faut changer de paradigme. Il faut un paradigme qui considère qu'il faut investir dans l'homme. Et en investissant dans l'homme, en changeant positivement l'homme, les effets corollaires, les corollaires de cet investissement auront des implications sur les conditions socio-économiques, les systèmes en soi, puisque c'est l'homme qui est au centre. Et je crois ici, investir en l'homme et l'échanger, c'est aujourd'hui, plutôt que de le faire dans une approche futuriste qui tend à faire consommer de l'illusion, alors que c'est l'homme d'aujourd'hui sur qui on doit vraiment compter pour changer les choses. Donc, il faut changer le paradigme et la perspective des choses, agir aujourd'hui plutôt que de remettre au lendemain ce qu'on peut effectivement changer aujourd'hui.
Vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. C'est la fin de ce journal préparé par Devine Bwinga avec Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée.